Chapitre 8. Les 12 années qui suivirent cette période, continue Madame Dean, furent les plus heureuses de ma vie. Mes plus grands ennuis pendant ces années furent ceux que me causèrent les petites indispositions de la jeune Catherine, indispositions que tout enfant, riche ou pauvre, ne peut manquer de connaître. Pour le reste, dès son 6e mois, elle était poussée comme un petit mélèze, et 2 ans ne s'étaient pas écoulés depuis la mort de Madame Lincoln, qu'elle pouvait déjà marcher et parler à sa façon. Elle était la créature la plus séduisante qui ait jamais été apportée l'éclat du soleil dans une maison désolée. Une réelle beauté de figure avec les jolis yeux noirs des Earnshaw, mais le teint clair et les petits traits, les blonds cheveux bouclés des Linton. Son caractère était hautain mais nullement dur, et son cœur était extrêmement sensible dans ses affections. Par sa capacité d'intense attachement, elle rappelait sa mère. Pourtant, elle ne lui ressemblait pas, car elle pouvait être douce comme une colombe. Elle avait une voix caressante et une expression pensive. Ses colères n'étaient jamais furieuses. Son amour avait autant de tendresse que de profondeur. Il faut bien avouer cependant qu'elle avait quelques défauts avec toutes ses qualités. Ainsi, un penchant à être insolente, et cette humeur capricieuse qui ne manque jamais de naître chez les enfants trop gâtés, qu'ils soient d'ailleurs bons ou méchants. Lorsqu'il arrivait à un domestique de la vexer, c'était toujours « Je le dirai à papa !» Et si son cœur la blâmait, et même d'un regard, on avait une affaire terrible. Je ne crois pas qu'il lui ait jamais adressé un mot un peu dur. Il s'était seul chargé de toute son éducation et en avait fait un amusement. Elle, de son côté, curieuse et d'esprit vif, ne pouvait manquer d'être une bonne écolière. Elle apprenait rapidement et faisait honneur à ses leçons. Jusqu'à 13 ans, jamais elle n'avait dépassé seule les limites du parc. En de rares occasions, M. Linton l'avait prise avec lui à 1 mile ou 2 de sa maison, mais il ne la confiait à personne d'autre. Jim Merton était pour elle un nom vide de sens. La chapelle était le seul édifice dont elle se fût approchée où elle fut entrée, en outre de sa propre maison. Léo de Hurlevent et M. Heathcliff n'existaient pas pour elle. Elle vivait dans une parfaite réclusion et semblait en être parfaitement heureuse. Je vous ai dit que Mme Heathcliff avait vécu à peu près 12 années après qu'elle avait quitté son mari. Sa famille était d'une constitution délicate. Ni elle ni Edgar n'avaient la rude santé que vous rencontrerez généralement dans ces régions. Ce que fut sa dernière maladie, je ne le sais pas, mais je conjecture que ce fut la même dont son frère est mort, une espèce de fièvre, lente au début, mais incurable et mortelle. Elle écrivit à son père pour l'informer de l'issue probable d'une maladie dont elle souffrait depuis 4 mois et pour le prier de ne pas refuser de venir la voir, car elle avait bien des choses à régler et elle désirait lui faire ses adieux et laisser le petit Linton en sûreté entre ses mains. Elle espérait que Linton pourrait rester avec lui comme il était resté avec elle, son père n'ayant sans doute aucun désir de se charger de son entretien ni de son éducation. Mon maître n'hésita pas un instant à se rendre à sa demande. Pour désagréable qu'il lui fût d'ordinaire de quitter sa maison, il partit aussitôt, recommandant Catherine à toute ma vigilance. 3 semaines après, une lettre encadrée de noir vint nous annoncer le jour du retour de M. Edgar. Isabella était morte. Il m'ordonnait de préparer une robe de deuil pour sa fille et de tout arranger pour recevoir son jeune neveu. Catherine sauta de joie à l'idée de revoir son père et se livra aussi aux plus brillantes prévisions sur les innombrables qualités de son cousin. Enfin, ce fut le soir tant attendu de l'arrivée. Dès le matin, l'enfant s'était occupé à mettre en ordre ses petites affaires, et maintenant, vêtu de sa nouvelle robe noire, la pauvre créature ne pouvait guère s'affliger beaucoup de la mort de sa tante, Elle ne cessa pas de m'agacer pour me forcer à me promener avec elle tout le long de la propriété jusqu'à ce que nous voyions arriver son père. Linton a 6 mois de moins que moi, observait-elle, tandis que nous errions lentement à l'ombre des arbres. Comme ce sera charmant de l'avoir pour compagnon de jeu. Tante Isabella a envoyé à papa une belle boucle des cheveux de son fils. Ils étaient plus clairs que les miens et tout aussi fins. Je les ai soigneusement gardés dans une petite boîte de verre, et j'ai souvent songé au plaisir que j'aurais à voir la tête dont ils provenaient. Oh, je suis heureuse, et papa, le cher, cher papa. Venez, Hélène, courons, venez vite. Elle courait, revenait, courait de nouveau, faisait ainsi plusieurs tours avant que mon pas tranquille ne fût arrivé à la porte du parc. Alors elle s'asseyait sur le petit banc plein d'herbe, et là, elle essayait d'attendre patiemment. Mais c'était impossible, elle ne pouvait pas rester une minute en repos. Comme ils sont longs, criait-elle. Ah, je vois de la poussière sur le chemin. C'est eux qui viennent. Quand donc sont-ils ici? Ne pouvons-nous pas sortir un peu, rien que la moitié d'un mile, Hélène? Ne le refusez pas. Seulement jusqu'à ce bouquet d'arbres, là, au tournant. Je refusais obstinément. Enfin, son impatience trouva son terme. Nous vîmes s'approcher la voiture des voyageurs. Miss Cathy se mit à crier et à étendre les bras dès qu'elle aperçut par la portière la figure de son père. Lui-même ne mit pas moins d'empressement à descendre vers elle, et longtemps ils n'eurent de pensée que l'un pour l'autre. Pendant qu'ils échangeaient leurs caresses, je jetai un regard à l'intérieur de la voiture pour voir le petit Linton. Il était endormi dans un coin, enveloppé dans un chaud manteau de fourrure, comme si on avait été en hiver. C'était un garçon pâle, chétif et efféminé, que l'on aurait pu prendre pour le frère plus jeune de mon maître, tant la ressemblance était forte. Mais il y avait dans son aspect quelque chose d'une maussaderie maladive que j'admets Edgar n'avait eue. Ce dernier s'aperçut de ma curiosité, et après m'avoir serré la main, il me dit de refermer la portière et de ne pas déranger l'enfant que le voyage avait fatigué. Cathy aurait bien voulu le voir à son tour, mais son père lui dit de venir, et ils marchèrent ensemble à travers le parc, pendant que je courais en avant prévenir les domestiques. « Et maintenant, chérie, » dit M. Linton à sa fille, lorsqu'ils s'arrêtèrent au bas des marches de la maison, « sachez que votre cousin n'est pas fort ni gai comme vous, et rappelez-vous qu'il vient de perdre sa mère. Ne vous attendez donc pas à le voir tout de suite jouer et courir avec vous, et ne le fatiguez pas en lui parlant beaucoup. Laissez-le tranquille au moins ce soir, voulez-vous ?»« Oui, oui, papa, » répondit Catherine. « Mais je veux le voir, et il n'a pas une seule fois regardé à la portière. » La voiture s'arrêta. L'enfant fut réveillé et porté à terre par son oncle. « Voici votre cousine Cathy, Linton, » dit mon maître, mettant l'une dans l'autre les mains des enfants. « Elle vous aime déjà, mais ayez soin de ne pas la chagriner en pleurant ce soir. Essayez maintenant d'être gai. » Le voyage est fini et vous n'avez pas autre chose à faire qu'à vous reposer et à vous amuser à votre aise. Alors laissez-moi aller au lit, répondit l'enfant, peu soucieux des saluts de Catherine, et mettant ses doigts dans ses yeux pour essuyer des larmes toutes prêtes. Allons, allons, voilà un brave enfant, murmurai-je pendant que je le faisais entrer. Vous allez la faire pleurer aussi. Voyez combien elle a de chagrin pour vous. » Je ne sais pas si c'était par compassion pour lui, mais sa cousine faisait une aussi triste figure que lui-même en revenant vers son père. Tous trois montèrent dans la bibliothèque où le thé était déjà servi. Je retirai le bonnet et le manteau de l'enfant et je l'installai sur une chaise près de la table. « Mais il ne fut pas plutôt assis qu'il se mit à pleurer de nouveau. Mon maître lui demanda ce qu'il avait. « Mais je ne peux pas rester assis sur une chaise !» sanglota l'enfant. « Alors allez vous mettre sur le sofa, et Hélène vous apportera du thé, » répondit patiemment son oncle. J'eus le sentiment qu'il avait été très éprouvé pendant le voyage par la société de cet enfant inquiet et souffreteux qui, à ce moment, se releva lentement de sa chaise et s'étendit sur le canapé. Cathy vint placer à côté de lui un tabouret où elle s'assit avec sa tasse. D'abord, elle ne dit rien. Mais cela ne pouvait durer et bientôt elle se mit à caresser les cheveux de son petit cousin et à baiser ses joues et à lui offrir du thé dans sa soucoupe comme à un bébé. Ceci lui plut car il n'était guère autre chose qu'un bébé. Il sécha ses yeux et ses traits s'éclairèrent dans un faible sourire. « Oh, cela ira très bien, » me dit le maître après les avoir observés une minute. « Très bien, si seulement nous pouvons le garder, Hélène. La compagnie d'un enfant de son âge ne peut tarder à lui inspirer un nouvel esprit et à désirer d'être fort. Il finira par le devenir. » « Oui, si nous pouvons le garder, » pensais-je en moi-même. Et j'eus le triste pressentiment qu'il n'y avait guère à l'espérer. Fallait-il donc que cet être chétif à la vivre à Louis de Hurlevent. Entre son père et Hareton, quelle compagnie et quelle instruction il allait trouver. Mes pressentiments se réalisèrent bientôt, plus tôt que je n'aurais pensé. Le thé fini, j'avais fait monter les enfants, et après Clinton s'était endormi, car il ne voulut pas me laisser le quitter avant qu'il fût endormi, j'étais redescendu. Je me tenais près de la table dans le salon, préparant une bougie pour M. Edgar, lorsqu'une servante arriva de la cuisine, m'informait que le domestique de M. Heathcliff, Joseph, était à la porte et désirait parler au maître. « Je vais d'abord lui demander ce qu'il veut, » dis-je, toute troublante. Une heure bien invraisemblable pour déranger les gens, et au moment même où ils reviennent d'un long voyage. Oh, je ne crois pas que le maître puisse le voir aujourd'hui. Cependant, Joseph avait traversé la cuisine et se présentait maintenant à l'entrée du salon. Il était vêtu de ses habits du dimanche, avec sa figure la plus solennelle et la plus aigre, et tenant d'une main son chapeau, de l'autre son bâton, il était en train de se nettoyer les pieds sur le paillasson. « Bonsoir, Joseph, » dis-je froidement. « Quelle affaire vous amène ici ce soir ?»« C'est à M. Linton que je dois parler, » répondit-il en m'écartant dédaigneusement de la main. « M. Linton se prépare à aller au lit. » À moins que vous n'ayez quelque chose de très particulier à lui dire. Je suis sûr qu'il ne pourra pas vous entendre maintenant. Vous ferez mieux de vous asseoir ici et de me confier votre message. Où est sa chambre ? Poursuivit le personnage, examinant la rangée des portes fermées. Je vis bien qu'il était décidé à refuser ma médiation. Très à contre-cœur, j'entrai dans la bibliothèque, et j'annonçai cet intempestif visiteur, conseillant à M. Linton de la journée au lendemain. Mais M. Linton n'eut pas le temps de m'y autoriser, car Joseph était monté derrière moi, et se précipitant dans l'appartement, s'était planté au bout de la table, ses deux poings serrés sur la tête de sa canne. D'une voix très haute, comme s'il s'attendait à de l'opposition, il commença. « Heathcliff m'a envoyé chercher son garçon, et je ne dois pas revenir sans lui. » Edgar Linton resta une minute sans parler. Une expression d'extrême chagrin envahit ses traits. Il aurait eu pitié de l'enfant par lui seul, quand même il ne se serait pas rappelé les frayeurs et les espoirs d'Isabella, et ses vœux inquiets pour son fils et la façon dont elle l'avait recommandé à ses soins. La perspective de livrer l'enfant le peinait amèrement, et il cherchait dans son cœur un moyen de l'éviter. Mais aucun projet ne s'offrit à lui. Il savait que de manifester le moindre désir de le garder n'aurait fait que rendre plus péremptoire la réclamation d'Heathcliff. Il ne lui restait qu'à se résigner. Pourtant, il ne voulut pas réveiller l'enfant de son sommeil. « Dites à M. Heathcliff, répondit-il d'un ton calme, que son fils ira demain au haut du Hurlevent. Il est au lit et est trop fatigué à cette heure pour faire encore une telle course. Vous pouvez lui dire aussi que la mère de Linton a désiré qu'il restât sous ma garde et que, du moins à présent, sa santé est très précaire. « Non, dit Joseph, prenant un air d'autorité, non, cela ne signifie rien. Heathcliff ne tient aucun compte de la mère, ni de vous non plus. Il veut avoir son garçon, et il faut que je le prenne tout de suite. » Vous ne le prendrez pas ce soir, répondit Linton avec décision. Descendez aussitôt et allez répéter à votre maître ce que je vous ai dit. Hélène, montrez-lui le chemin. Allez. Et poussant du bras le vieillard indigné, il en débarrassa la chambre puis ferma la porte. Très bien, cria Joseph, se retirant lentement. Demain, Heathcliff viendra lui-même et vous le mettrez dehors, si vous l'osez. Pour empêcher cette menace de se réaliser, M. Linton m'ordonna le lendemain matin de conduire l'enfant chez son père sur le poney de Catherine et il me dit « Comme nous n'aurons aucune influence sur sa destinée, bonne ou mauvaise, il ne faut pas que vous disiez à ma fille où il est allé. Il est impossible désormais qu'elle ait des relations avec lui. Il vaut mieux qu'elle ne sache pas qu'il est dans le voisinage, car alors elle n'aurait plus de repos et ne songerait qu'à la faire la visite au haut du Hurlevent. Vous lui direz simplement que le père de son cousin l'a envoyé chercher en hâte et que nous avons dû le laisser partir. » L'enfant parut très fâché d'être réveillé à 5 heures du matin et surpris d'apprendre qu'il lui fallait se préparer à un nouveau voyage. Mais j'adoucis la chose en lui disant qu'il allait passer quelque temps avec son père qui, dans son impatience de le voir, n'avait pu se résigner à attendre qu'il fût entièrement reposé. « Mon père ? » s'écria Linton, singulièrement embarrassé. « Maman m'a jamais dit que j'avais un père. Où demeure-t-il ? Oh, j'aimerais mieux rester ici avec mon oncle. » « Il demeure tout près d'ici, répondis-je, tout juste derrière ces collines, si près que vous pourrez venir ici à pied, quand vous serez en train. Et vous devez être heureux de rentrer dans votre maison et de voir votre père. Il faut que vous essayiez de l'aimer comme vous aimiez votre mère, et alors lui aussi vous aimera. Mais pourquoi ai-je pas entendu parler de lui auparavant ? Pourquoi maman et lui ne vivaient-ils pas ensemble comme tout le monde ? Ses affaires le retenaient dans le nord, répondis-je, tandis que votre mère était forcée par sa santé à résider dans le midi. Mais pourquoi maman ne m'a-t-elle jamais parlé de lui ? Elle m'a souvent parlé de mon oncle, et il y a longtemps que j'ai appris à l'aimer. Mais comment ferais-je pour aimer papa ? Je le connais pas. Oh, me dis-je, tous les enfants aiment leurs parents. Votre mère aura sans doute pensé que si elle vous parlait trop souvent de votre père, vous auriez le désir d'être avec lui. Allez, hâtons-nous, une promenade à cheval, par une si belle matinée est bien préférable à une heure de sommeil de plus. Et est-ce qu'elle viendra avec nous, la petite fille que j'ai vue hier ? Non, pas à présent, répondis-je. Et mon oncle ? Non plus, non, c'est moi qui vous conduirai. Je fis de mon mieux pour le convaincre du mal qu'il y aurait à montrer de la répugnance pour rencontrer son père. Mais il refusa obstinément de faire sa toilette, et j'eus à appeler mon maître pour m'aider à le tirer hors du lit. Enfin, la pauvre créature fut mise sur pied avec toutes sortes d'espérances trompeuses sur la courte durée de son séjour chez son père. On lui promit que M. Edgar et Cathy iraient lui faire visite, et maintes autres choses que j'inventais et lui répétais tout le long de la route. La pure beauté de l'air, l'éclat du soleil, la douceur du cheval finirent après un instant par triompher de sa mauvaise humeur. Il se mit à me questionner sur sa nouvelle maison et ses habitants. « Est-ce que les Hauts de Hurlevent est un endroit aussi agréable que Thrushcross Grange ?» me demanda-t-il en se retournant pour jeter un dernier regard sur la vallée d'où montait un léger brouillard estompant de laine blanche le bleu du ciel. « Les Hauts de Hurlevent ne sont pas si entourés d'arbres, ni tout à fait si grands, » répondis-je, « mais on a une très belle vue du pays. » « Et puis l'air est plus sain pour vous, plus frais et plus sec. »« Il est possible que dans les premiers temps, la maison vous paraisse vieille et sombre. »« Quoique ce soit une maison respectable, la meilleure, après la grange, dans toute la contrée. »« Et puis vous aurez de si belles courses à faire sur la lande. »« Harriton Earnshaw, qui est le cousin de Miss Cathy et par suite un peu le vôtre, » vous montrera les endroits les plus agréables. Quand le temps sera beau, vous pourrez apporter un livre et étudier dans un vert retrait. Et puis, de temps à autre, votre oncle viendra faire une promenade avec vous. Il lui arrive souvent de se promener sur ces collines. Et comme quoi est-il, mon père ? Demanda-t-il. Es-tu aussi jeune et aussi beau que mon oncle ? Il est aussi jeune, mais il a les cheveux et les yeux noirs, et l'air plus sombre. Il est aussi plus grand et plus fort. Il est possible que, d'abord, il ne vous paraisse pas si doux et si bon, parce que ses manières sont tout autres. Mais rappelez-vous d'être franc et cordial avec lui. Et naturellement, il vous aimera mieux qu'aucun oncle, puisque vous êtes son fils. Les cheveux et les yeux noirs ? Murmurait Linton. Je ne puis me l'imaginer. Alors je suis pas comme lui, n'est-ce pas ? Pas beaucoup, répondis-je. Mais en moi-même, je songeais qu'il aurait fallu répondre pas du tout, et je considérais avec regret le teint pâle et les formes frêles de mon petit compagnon, et ses grands yeux languides, les yeux de sa mère, mais privés de tout ce qu'il y avait chez Isabella le brillant esprit. Sauf lorsque par instant une impression maladive venait animer le regard de l'enfant. Mais comme c'est étrange qu'il soit jamais venu nous voir, maman et moi, poursuivit Lyndon. M'a-t-il jamais vu ? S'il m'a vu, c'est quand j'étais tout enfant. Je ne me rappelle pas une seule chose de lui. Eh, Master Linton, dis-je. 300 000 sont une grande distance et 10 ans, non pas pour une personne d'âge la longueur qu'ils ont pour vous. Il est probable que M. Heathcliff se proposait de venir tous les étés, mais sans jamais trouver une occasion convenable. Maintenant, il est trop tard. Ne le troublez pas de questions sur ce sujet, cela le fâcherait sans profit. L'enfant fut tout occupé à ses propres pensées jusqu'au terme du voyage. Lorsque nous nous arrêtâmes devant la porte du jardin, je le regardais pour saisir ses impressions. Il observait avec une attention solennelle le fronton sculpté et les fenêtres et les buissons de groseilles et les sapins tordus. Après quoi il secoua la tête comme si ses sentiments intimes désapprouvait tout à fait l'apparence extérieure de son nouveau séjour. Mais il eut le sens d'ajourner ses plaintes, avec l'espoir que l'intérieur pourrait apporter une compensation. Avant qu'il fût descendu de cheval, j'allais ouvrir la porte. Il était 6h30. La famille venait de finir de déjeuner, et la servante était occupée à desservir la table. Joseph se tenait debout auprès de la chaise de son maître et lui racontait quelque chose sur un cheval boiteux, et Ayrton se préparait à aller faire les foins. « Hola, Nelly !» dit M. Heathcliff en m'apercevant. « Je craignais d'avoir à descendre moi-même à la grange pour aller chercher ce qui m'appartient, mais vous me l'avez apporté, n'est-ce pas ?» Il se leva et alla vers la porte. Ayrton et Joseph le suivirent, tout allumés de curiosité. Le pauvre Linton jetait sur ces trois figures un regard épouvanté. « À coup sûr, dit Joseph après une grave inspection, il vous ressemble, maître, et voilà votre garçon. » Heathcliff poussa un rire de mépris. « Dieu, quelle beauté! Quelle aimable et charmante créature ! » s'écria-t-il. « On me l'aura nourri de limaçons et de petits laits, n'est-ce pas, Nelly ? Mais le diable m'emporte, c'est pire que je ne pensais. Et le diable, c'est que je ne m'attendais pas à grand-chose. » Je fis descendre le cheval, puis entrer dans la maison l'enfant tremblant et égaré. Il ne comprenait pas tout à fait la signification du discours de son père, ou bien ne se rendait pas compte qu'il en était l'objet. En vérité, il n'était pas encore certain que cet étranger sarcastique et dur fût son père. Mais il se serra contre moi avec un tremblement croissant. Et comme M. Heathcliff avait pris un siège et l'avait appelé vers lui, il cacha son visage sur mon épaule et se mit à pleurer. « Allons, allons !» dit Heathcliff, étendant la main vers lui et l'attirant vivement entre ses genoux, puis le prenant par le menton. « Pas de ces folies, nous n'allons pas vous faire mal, Linton. C'est votre nom, n'est-ce pas ? Ah ! Vous êtes bien entièrement l'enfant de votre mère. Où est ma part en vous, petit poulet pleurnichard ?» Il enleva le bonnet de l'enfant et rejeta en arrière ses épaisses boucles blondes. Puis il tâta les maigres bras et les petits doigts de son fils, qui, pendant cet examen, cessa de pleurer et leva ses grands yeux bleus sur son examinateur. « Me connaissez-vous ? » demanda Heathcliff après avoir constaté que tous les membres de l'enfant étaient également faibles et frêles. « Non, » dit Linton avec une peur vague. « Non, mais quelle honte ! Que votre mère n'ait jamais cherché à éveiller votre pitié filiale envers moi. Eh bien, apprenez que vous êtes mon fils. Et votre mère était une méchante coquine de vous laisser dans l'ignorance du sort de votre père. Allons, ne reculez pas et ne rougissez pas de cette façon, bien que ce soit toujours une façon de montrer que vous avez du sang rouge. Soyez un bon garçon et nous nous entendrons. Nelly, si vous êtes fatiguée, vous pouvez vous asseoir, sinon retournez à la grange. Je devine bien que vous aurez à y rapporter tout ce que vous avez entendu et vu, et le plus tôt sera le mieux. » « Eh bien, répondis-je, j'espère que vous serez bon pour l'enfant, monsieur Heathcliff. Faute de quoi, vous ne le garderez pas longtemps. Et il est le seul parent que vous ayez désormais dans le monde, ne l'oubliez pas. » « Je serai très bon pour lui, soyez sans crainte, » dit-il en riant. « Seulement j'entends que personne autre ne soit bon pour lui. Je veux avoir le monopole de ses affections. » Et pour inaugurer mes bons procédés, Joseph apportait à cet enfant quelque chose pour déjeuner. « Ayrton, infernal veau, allez à votre ouvrage. » « Oui, Nelly, » ajouta-t-il, quand ils furent partis. « Mon fils est l'héritier présomptif de la grange. Je ne veux pas qu'il meure avant d'être assuré d'avoir sa succession. De plus, il est à moi, et je veux avoir le triomphe de voir mon descendant maître de leurs biens. C'est la seule considération qui pourra me faire supporter ce petit drôle, car je le méprise pour lui-même, et je le hais pour les souvenirs qu'il fait revivre. Mais cette considération suffit. Mon enfant sera aussi en sûreté chez moi et élevé aussi soigneusement que celui de votre maître chez lui. J'ai une chambre là-haut, toute prête pour lui, dans le style le plus élégant. J'ai aussi engagé un tuteur qui doit venir trois fois par semaine devint Miles d'ici pour lui enseigner ce qu'il voudra apprendre. J'ai ordonné à Hareton de lui obéir. En fait, j'ai arrangé toutes choses pour préserver en lui le supérieur et le gentleman. Je regrette seulement qu'il mérite si peu tout ce dérangement. Si je pouvais désirer quelque bonheur dans ce monde, c'était de trouver en lui un digne objet de fierté. Je suis amèrement désappointé avec ce petit misérable tout pâle et tout geignant. Pendant qu'il parlait, Joseph revint avec un plat de porridge au lait et le plaça devant Linton, qui considéra cette nourriture domestique avec un regard d'aversion et déclara qu'il ne pouvait pas le manger. Je vis que le vieux domestique partageait pleinement le mépris de son maître pour l'enfant, mais qu'il se trouvait obligé de garder pour lui son sentiment à cause du désir d'Heathcliff de voir son fils respecté de ses inférieurs. « Vous ne pouvez pas le manger ?» répéta-t-il, regardant en face le petit Linton et baissant la voix pour ne pas être entendu. « Mais Mr. Hareton n'a jamais mangé autre chose quand il était petit. Et ce qui était assez bon pour lui doit être assez bon pour vous, il me semble. »«
Je n'en mangerai pas, » répondit Linton d'un ton hargneux. « Enlevez ça d'ici. »
Joseph prit le plat avec un geste indigné et vint nous l'apporter. « Y a-t-il quelque chose de mauvais dans cette nourriture ?» demanda-t-il en la présentant à Heathcliff. « Et qu'est-ce qu'il y aurait de mauvais ?»«
Ah, fit Joseph, c'est que ce garçon a le goût difficile, et il dit qu'il ne peut pas en manger. Ben, sa mère était comme lui. »«
Ne me parlez pas de sa mère, » dit le maître d'un ton fâché. « Donnez-lui quelque chose qu'il puisse manger, voilà tout. »
« Quelle est sa nourriture ordinaire, Nelly ?»
J'indiquai du lait chaud ou du thé, et des ordres furent donnés en conséquence à la servante.
« Allons, me dis-je, l'égoïsme de son père contribuera du moins à lui rendre la vie confortable.
Heathcliff se rend compte de la constitution délicate de l'enfant et de la nécessité de le bien traiter. Monsieur Edgar sera consolé en apprenant que les choses ont pris cette tournure. Et comme je n'avais pas d'excuse pour rester plus longtemps, je sortis, me glissant hors de la chambre pendant que Linton était occupé à repousser timidement les avances d'un gros chien de berger. Mais le garçon était trop en alerte pour ne pas me voir, et comme je fermais la porte, je l'entendis pleurer en répétant avec frénésie « Ne me quittez pas, je veux pas rester ici, je veux pas rester ici !» J'entendis alors que l'on soulevait puis qu'on laissait retomber le loquet. On se refusait à le laisser sortir. Je montai sur le cheval et le mis au trot. Ainsi se termina ma courte surveillance. Nous eûmes bien de l'embarras avec Cathy ce jour-là. Elle s'était levée toute joyeuse, impatiente de rejoindre son cousin. Et lorsqu'elle a pris son départ, elle eut des larmes et des lamentations si passionnées qu'Edgar lui-même fut obligé, pour la calmer, d'affirmer que Linton ne tarderait pas à revenir. « Si seulement je puis l'obtenir, » ajouta-t-il, et c'était ce qu'il n'espérait guère. Cette promesse ne put la rassurer tout à fait, mais le temps eut plus de pouvoir, et la jeune fille, tout en demandant parfois à son père quand Linton reviendrait, finit par oublier complètement ses traits. Toutes les fois que j'avais l'occasion de rencontrer à Jim Merton la servante de Hurlevent, je lui demandais comment allait l'enfant, car il vivait aussi retiré que Catherine elle-même, et jamais on ne le voyait. J'appris de cette femme qu'il continuait à être de faible santé et de fatigante compagnie. M. Heathcliff semblait le prendre sans cesse davantage en aversion, tout en se donnant quelques peines pour cacher son sentiment. Il avait de la répugnance pour le son de sa voix et ne pouvait se résoudre à rester dans une même chambre avec lui. Rarement, le père et l'enfant se parlaient. Linton apprenait ses leçons et passait ses soirées dans un petit appartement qu'on avait appelé le parloir. Le reste de la journée, il ne sortait pas de son lit, ayant toujours des toux et des rhumes et des douleurs de toutes sortes. « Et jamais je n'ai connu une créature si peu courageuse, » ajouta la femme, « ni si préoccupée d'elle-même. Si je laisse la fenêtre ouverte un peu tard dans la soirée, il se plaint, comme si un souffle d'air devait le tuer. Il demande à avoir du feu au milieu de l'été, et la fumée de la pipe de Joseph est du poison pour lui, et il faut toujours qu'il ait des sucreries et des friandises, et toujours du lait, sans s'occuper de ce qui reste pour nous. » Il est là, enveloppé dans son manteau de fourrure et assis dans son fauteuil, près du feu à grignoter. Et si par compassion, Hareton vient l'amuser, car Hareton est d'une nature rude mais pas méchant, il ne manque pas de se séparer bientôt, l'un avec des jurons et l'autre avec des larmes. Je crois que si c'était pas son fils, le maître autoriserait volontiers Earnshaw à le battre. Mais je suis sûr qu'il serait capable de le mettre à la porte s'il connaissait seulement la moitié des commodités dont il s'entoure. Mais, sans doute pour pas courir le danger d'en être tenté, jamais il n'entre dans le parloir. Et si le petit Linton fait des manières devant lui, il envoie aussitôt dans sa chambre. Je devinais, d'après ses paroles, que le manque de toute sympathie avait rendu le jeune Heathcliff égoïste et désagréable à supporter, qu'il ne l'ait pas été de naissance. Et ainsi, mon intérêt pour lui décrut, bien que je continuasse à plaindre son sort et à regretter que l'on ne l'eût pas laissé avec nous. Monsieur Edgar m'encourageait à obtenir des renseignements. Il pensait beaucoup à son neveu et aurait couru de grands risques pour le voir. Il me dit une fois de demander à la servante si le petit Lincoln n'allait jamais à Jim Merton. Mais la servante me répondit qu'il n'y était allé que deux fois à cheval en compagnie de son père et que les deux fois il s'était plaint d'être tout courbaturé pendant les jours qui avaient suivi. 2 ans après l'arrivée du petit, cette servante quitta la maison et fut remplacée par une autre que je ne connais pas. La vie se poursuivit à la grange de la même gentille façon qu'autrefois jusqu'à ce que Miss Cathy eut 16 ans. Nous ne fêtions jamais l'anniversaire de sa naissance, parce que c'était aussi l'anniversaire de la mort de ma défunte maîtresse. Son père ne manquait jamais de passer cette journée seul dans la bibliothèque. Le soir tombant, il allait jusqu'au cimetière de Jim Merton, et souvent prolongeait son absence au-delà de minuit. Catherine se trouvait donc ce jour-là abandonnée à elle-même. Le 20 mars fut cette année-là une admirable journée de printemps. Après que son père se fut retiré, la jeune fille descendit, habillée pour sortir, et me demanda de faire avec elle une promenade sur la lande. M. Linton l'y avait autorisé, pourvu que la promenade fût courte et ne dépassât pas 1 heure. « Ainsi hâtez-vous, Hélène, » me cria-t-elle, « je sais où je veux aller. Il y a un endroit où s'est fixée toute une colonie d'oiseaux, et je veux voir s'ils ont fait leurs petits. » « Mais cela doit être très loin, » répondis-je. « Non, pas du tout, je suis allé avec papa. » Je mis mon bonnet et sortis, sans plus songer à la chose. Elle sautait devant moi, puis retournait me rejoindre et de nouveau s'élançait en avant comme un jeune lévrier. Moi-même, j'étais tout heureuse à écouter chanter les alouettes et à jouir de la douce chaleur du soleil et à considérer ma délicieuse petite amie avec ses boucles dorées volant sur ses épaules et ses joues brillantes comme des roses sauvages et ses yeux tout rayonnants de plaisir parfait. Elle était véritablement comme un ange dans ce temps-là. « Eh bien, lui dis-je, où sont donc vos oiseaux, Miss Cathy ? Nous devrions y être arrivés et nous sommes déjà très loin du parc. »« Oh, un petit peu plus loin, un tout petit peu plus loin, Hélène, » me répondait-elle. Vous n'avez qu'à monter cette petite colline, et avant que vous ne soyez arrivé de l'autre côté, j'aurais fait lever les oiseaux. Mais il y avait tant de collines à grimper que je finis par me sentir fatigué et lui dis de nous arrêter et de revenir à la maison.
mais elle, qui s'était avancée très loin de moi, soit qu'elle n'ait pas pu ou pas voulu m'entendre, elle continua à courir en avant, et je fus forcé de la suivre. Enfin, elle disparut dans un creux, et avant que j'eusse pu la revoir, elle était au moins à 2 miles plus près de Hurlevent que de sa maison, et je vis la jeune fille arrêtée par 2 personnes, dont l'une me parut devoir être M. Heathcliff lui-même. Cathy avait été prise sur le fait de ravager, ou tout au moins d'explorer, les nids des grouses. Léo de Hurlevent était la propriété d'Heathcliff, et celui-ci réprimandait la jeune fille. « Mais je n'en ai ni trouvé ni pris un seul, » disait celle-ci au moment où je m'approchais. Je n'avais aucune intention d'en prendre, mais papa m'avait dit qu'il y en avait une quantité ici, et je voulais seulement voir les œufs. Heathcliff me regarda avec un sourire méchant, laissant voir qu'il savait à qui il avait affaire. Après quoi, il demanda à la jeune fille qui était son papa. « Monsieur Linton de Social Scrounge, » répondit-elle, « et je suppose que vous ne m'auriez pas parlé de cette façon si vous aviez su qui j'étais. » Oh, ainsi vous supposez que monsieur votre papa est hautement destiné et respecté, fit Heathcliff d'un ton sarcastique. Et vous, qui êtes-vous? Demanda Catherine, le considérant curieusement. Et cet homme-ci est votre fils? Elle désigna Harriton, que les années n'avaient fait que rendre plus grand et plus fort, sans rien lui enlever de sa gaucherie ni de sa rudesse. « Miss Cathy, » interrompis-je, « il y aura bientôt 3 heures que nous sommes sortis au lieu d'une. Il faut que nous rentrions. »« Non, cet homme n'est pas mon fils, » répondit-il après m'avoir écarté de la main. « Mais j'ai un fils que vous avez, je crois, déjà vu. Eh bien, que votre nourrice soit si pressée, je crois que vous et elle ne vous trouverez pas mal d'un peu de repos. Ne voulez-vous pas traverser ce coin de bruyère et entrer un instant dans ma maison ?» Vous pouvez être sûr d'y être bienvenu. » Je murmurai à Catherine qu'elle ne devait en aucune façon accepter cette proposition. « Et pourquoi ? » demanda-t-elle tout haut. « Je suis fatiguée de courir et le terrain est trop mouillé de rosée pour que je puisse m'asseoir ici. Allons-y, Hélène. Et puis cet homme dit que j'ai vu son fils. Je suppose qu'il se trompe, mais je devine où il demeure. » Dans cette ferme qu'on voit en revenant de Pennison Greggs, n'est-ce pas? Oui, en effet. Allons, Nelly, taisez-vous. Harriton, allez en avant avec la fille. Et vous, Nelly, vous allez marcher avec moi. Non, mais je ne veux pas qu'elle entre chez vous, m'écriai-je, m'efforçant de délivrer mon bras qu'il avait saisi. Mais la jeune fille était déjà presque aux pierres de la porte, courant à toute volée. Le compagnon qu'on lui avait désigné n'avait pas eu la prétention de l'escorter, et arrivé à la route, il l'avait quitté. « Monsieur Heathcliff, dis-je, ceci est très mal, car vous savez bien que ce n'est pas dans une bonne intention. Maintenant, elle va voir Linton et tout raconter aussitôt que nous serons revenus, et c'est sur moi que retombera tout le blâme. « Je tiens à ce qu'elle voie Linton, » répondit-il. Il a justement meilleure apparence tous ces jours-ci, et il ne lui arrive pas souvent d'être en état d'être vu. Et puis nous avons vite fait de lui persuader de tenir la visite secrète, ou est le mal là-dedans. Ben, le mal est que son père va me détester s'il apprend que je lui ai permis d'entrer dans votre maison. Et puis je suis convaincu que vous avez un mauvais dessein en l'encourageant à entrer chez vous. Mon dessein ? Répondit-il. Aussi honnête que possible. Le voici d'ailleurs en entier, Ellie. C'est que les 2 cousins puissent devenir amoureux l'un et l'autre et se marier. Vous voyez que j'agis généreusement envers votre maître. Sa fille n'a rien en vue, et si elle seconde mes désirs, elle deviendra tout de suite mon héritière en commun avec Linton. Mais si Linton meurt, répondis-je, et sa vie est bien peu sûre. Catherine sera l'héritière. Non, nullement. Il n'y a aucune clause dans le testament qui l'établisse. La propriété de mon fils me reviendra à moi, mais pour prévenir les querelles, je désire leur union, et je suis résolu à la faire. Et moi, je suis résolu à ne laisser jamais ma maîtresse s'approcher de nouveau de votre maison, répliquai-je, au moment où nous arrivions à la porte où Miss Cathy nous attendait. Heathcliff m'ordonna de rester tranquille, et nous précédant dans le sentier, alla nous ouvrir la porte. Catherine le regarda plusieurs reprises, comme si elle n'arrivait pas à savoir ce qu'elle devait penser de lui. Mais lui ne manquait pas de sourire lorsqu'il rencontrait son regard, et d'adoucir sa voix en lui parlant. J'eus même la folie de m'imaginer que la mémoire de sa mère pourrait le désarmer en sa faveur et l'empêcher de lui faire du tort. Linton se tenait debout près du foyer. Il venait de rentrer d'une promenade dans les champs, car il avait encore le bonnet sur la tête et était en train de demander à Joseph des bottines plus sèches. Là, je l'avais fait grandir. Il allait avoir 16 ans dans quelques mois. Ses traits étaient restés jolis, ses yeux et son teint étaient devenus plus brillants qu'auparavant, mais d'un éclat tout passager et dû seulement à la bonne influence de l'air et du soleil. « Eh bien, qui est-ce ? » demanda M. Heathcliff, se tournant vers Cathy. « Pouvez-vous le dire à présent ?»« Votre fils ? » dit-elle après les avoir considérés l'un et l'autre. « Oui, oui, répondit-il. « Mais est-ce la première fois que vous le voyez ? Songez-y, oh, vous avez la mémoire courte. Linton, ne vous rappelez-vous pas votre cousine ? Que vous teniez tant à revoir quand vous êtes arrivé ici. Quoi, Linton ? S'écria-t-elle à ce nom, tout allumée de joyeuses surprises. Est-ce le petit Linton ? Mais il est plus grand que moi. Êtes-vous Linton ? Le jeune homme s'avança et se fit reconnaître. Elle l'embrassa avec ardeur, et tous deux furent surpris des changements que le temps leur avait apportés. Catherine avait alors atteint toute la taille qu'elle a aujourd'hui. Ses formes étaient à la fois pleines et élancées, ses membres élastiques comme l'acier, et son aspect général étincelait de santé et de vie. Quant à Linton, ses regards et ses mouvements étaient languides, ses formes bien grêles, mais il y avait dans ses manières une grâce qui adoucissait ses défauts et les empêchait de déplaire. Après avoir échangé avec lui de nombreuses marques d'affection, sa cousine s'avança vers M. Heathcliff, qui restait près de la porte, paraissant tout occupé à regarder au dehors, mais en réalité n'ayant d'attention que pour les observer. « Mais alors, vous êtes mon oncle ? » s'écria-t-elle. « Il me semblait bien que je vous aimais, bien que vous fussiez d'humeur désagréable. » « Pourquoi ne venez-vous pas faire visite à la grange avec Linton ? De vivre tant d'années si près de l'un autre et de ne jamais se voir, c'est bien étrange. Pourquoi avez-vous fait cela ?» Elle s'était levée sur le bout des pieds pour l'embrasser. « Je suis allé à la grange une fois ou deux avant que vous ne fussiez né, » répondit Heathcliff. « Et maintenant, oh diable, si vous avez des baisers à dépenser, donnez-les à Linton, sur moi, ils sont perdus. »« Méchante Hélène !» s'écria Catherine, se retournant vers moi avec ses caresses. « Méchante Hélène d'avoir essayé de m'empêcher d'entrer. Mais désormais, je ferai cette promenade tous les matins. Je le puis, n'est-ce pas, mon oncle ? Et de temps en temps, j'amènerai papa. » « Ne serez-vous pas heureux de nous voir ?»« Naturellement, » répondit l'oncle avec une grimace mal contenue et qui témoignait de son aversion pour les deux visiteurs proposés. « Mais attendez, » poursuivit-il en se retournant vers Cathy. « Il vaut mieux que je vous dise la chose tout de suite. Monsieur Linton a un préjugé contre moi. Il nous est arrivé jadis de nous quereller très durement. Et si vous lui parlez de venir ici, il ne manquera pas de vous interdire aussitôt toute visite. Si donc vous avez quelque souci de voir votre cousin, à l'avenir, il faut que vous n'en disiez pas un mot. Venez si vous voulez, mais n'en parlez pas. Et pourquoi vous êtes-vous querellé ? Demanda Catherine un peu abattue. Il me jugeait trop pauvre pour épouser sa sœur. Et il fut fâché quand je l'eus obtenu. Son orgueil était blessé, jamais il me le pardonnera.
Cela est mal, dit la jeune fille. Il faudra qu'un jour je le lui dise. Mais Linton et moi n'avons aucune part dans votre querelle. Si c'est ainsi, je ne viendrai pas ici, mais il faudra que Linton vienne à la grange.
Ce sera trop loin pour moi, murmura son cousin. De faire 4 000 à pied me suffirait.
Non, mais vous, Catherine, venez ici de temps à autre, pas tous les matins, mais une ou deux fois par semaine.
Le père lança à son fils un regard d'amer mépris. J'ai bien peur, Nelly, d'en être pour ma peine, murmura-t-il.
Miss Catherine, comme le drôle l'appelle, finira par découvrir ce qu'il vaut et par l'envoyer au diable.
Si ça avait été Harton, savez-vous que 20 fois par jour, j'envie Harton, si dégradé qu'il soit. J'aurais adoré ce garçon s'il n'avait pas été ce qu'il est. Mais je crois que celui-là est à l'abri de l'amour de votre jeune dame. Et pour ce misérable avorton, nous comptons que ça ne dure à guère pas ses 18 ans. Oh, l'insipide créature, il est tout occupé à sécher ses pieds et ne daigne même pas la regarder.
Linton ! Oui, père, répondit l'enfant.
N'avez-vous rien à montrer à votre cousine dans les environs, pas même un lapin ou un nid de belette ? Conduisez-la dans le jardin avant de changer de soulier, et puis dans l'étable pour voir votre cheval.
Cela ne vous serait-il pas plus agréable de vous asseoir ici ? Demanda Linton à Catherine, d'un ton qui exprimait bien sa répugnance à se mouvoir de nouveau.
« Je ne sais pas, » répondit-elle, en jetant un regard sur la porte, comme si sa nature même l'entraînait à agir. Lui resta assis et se rapprocha du feu. Heathcliff se leva, alla dans la cuisine, puis dans la cour, appelant Harton. Harton répondit, et tous deux rentrèrent dans la maison. Le jeune homme était allé se laver, comme en témoignait l'éclat de ses joues, et l'humidité de ses cheveux.
Oh, je veux vous le demander à vous, mon oncle, cria Miss Cathy. Ce garçon n'est pas mon parent, n'est-ce pas?
Si fait, répondit-il. C'est le neveu de votre mère. Ne vous plaît-il pas?
Catherine avait une expression bizarre en continuant à le regarder.
N'est-ce pas un joli garçon? Poursuivit Heathcliff.
L'impertinente demoiselle se dressa sur ses pieds et murmura quelque chose à l'oreille de son oncle. Celui-ci se mit à rire et Harton s'assombrit. Je compris qu'il était très sensible au manque d'égard qu'il soupçonnait et qu'il avait une vague notion de son infériorité. Mais son maître ou gardien le rasséréna en s'écriant:
Vous serez le favori parmi nous, Harton. Elle dit que vous êtes un...
Quoi donc ?
Enfin, quelque chose de très flatteur. Allez faire avec elle le tour de la ferme. Et rappelez-vous de vous conduire comme un gentleman, pas de mauvaises paroles, n'est-ce pas ? Et quand la jeune dame ne vous regardera pas, ne la dévisagez pas pour vous cacher ensuite la figure dès qu'elle tournera les yeux sur vous. Quand vous parlerez, parlez lentement. Et sortez vos mains de vos poches. Allez, et amusez-la de votre mieux.
Le couple sortit, Heathcliff le considéra par la fenêtre.
Earnshaw tenait constamment sa figure détournée et semblait considérer avec la curiosité d'un étranger ou d'un artiste le paysage environnant. Catherine le regardait à la dérobée, d'un regard qui n'exprimait pas une bien vive admiration. Après quoi, elle se mettait en devoir de chercher une source d'amusement autour d'elle et sautillait gaiement, fredonnant une chanson. « J'ai lié sa langue, » me dit Ashkiff. « Il ne risquera pas une seule syllabe de toute la promenade. Nelly, vous vous rappelez ce que j'étais à son âge, ou plutôt quand j'avais quelques années de moins que lui ? M'avez-vous vu un air si stupide ?»«
Oh, bien pire, » répondis-je, « parce qu'avec cela, vous étiez plus maussade. »
« Ce garçon me fait bien du plaisir, » poursuivit-il, songeant tout haut. « Il a réalisé mon attente. S'il était un sot de naissance, mon plaisir aurait été moindre de moitié. Mais il n'est pas sot, et je peux sympathiser avec tous ses sentiments, les ayant éprouvés moi-même. Je sais par exemple exactement ce qu'il souffre en cet instant. Ce n'est rien en comparaison de ce qu'il aura encore à souffrir. Et jamais il ne sera capable de sortir de son abîme de grossièreté et d'ignorance. Je l'ai enchaîné de plus près que sa canaille de père n'avait fait pour moi. Je l'ai fait descendre plus bas, car je lui ai fait trouver son orgueil dans son abrutissement. Je lui ai appris à mépriser comme mesquin et misérable tout ce qui était au-dessus de l'animalité. Pensez-vous pas qu'Aïn l'est ? Serait fier de son fils, s'il pouvait le voir presque aussi fier que je le suis du mien. La différence est seulement que l'un est de l'or employé comme pierre de pavage, tandis que l'autre est du plomb poli pour singer l'argent. Mais le meilleur de tout cela est que Harrington m'adore. Vous avouerez qu'en cela, j'ai enfoncé Hindley. Si cet animal défunt pouvait se lever de son tombeau et me reprocher mes torts envers son enfant, j'aurais l'amusement de voir le susdit enfant le repousser et s'indigner de ce qu'il ose s'en prendre au seul ami qu'il ait sur la terre. Cependant, notre jeune compagnon, qui était assis trop loin de nous pour pouvoir nous entendre, commença à manifester des symptômes d'embarras comme s'il se repentait d'avoir refusé la société de Catherine par peur d'une petite fatigue. Son père remarqua les regards qu'il lançait à la fenêtre et la façon hésitante dont il étendait la main pour prendre son chapeau. « Levez-vous, paresseux !» lui cria-t-il d'un ton qu'il voulait cordial. « Courez après eux ! Ils sont tout juste au coin, près de la ruche !» Linton recueillit ses forces et sortit. Au même moment, par la fenêtre ouverte, j'entendis que Cathy demandait à son peu sociable compagnon ce que signifiait l'inscription au-dessus de la porte. Harrington leva la tête, puis la secoua comme un véritable clown. « T'es quelque maudite écriture, » répondit-il, « je puis la lire. »« Vous ne pouvez la lire, » s'écria Catherine. « Mais je le peux, moi, c'est de l'anglais. » Mais je voudrais savoir pourquoi c'est ici. Linton se mit à ricaner. Ce fut la première manifestation de gaieté que je vis chez lui. Il ne sait pas ses lettres, dit-il à sa cousine. Auriez-vous pu croire à l'existence d'un pareil âne ? A-t-il perdu l'essence ? Demanda sérieusement Miss Cathy. Ou bien est-il idiot ? Voilà deux fois que je le questionne, et chaque fois il a un air si stupide qu'il ne paraît pas me comprendre. En tout cas, j'ai moi bien de la peine à le comprendre. Linton renouvela son rire et jeta un regard de sarcasme sur Harrington, qui à coup sûr ne paraissait pas dans ce moment tout à fait dénué de compréhension.
« C'est une pure affaire de paresse, » observa Linton, « n'est-ce pas vrai, Earnshaw ? Ma cousine, se figure que vous êtes idiot.
Vous voyez maintenant quelle est la conséquence de votre mépris pour les livres. Avez-vous remarqué, Catherine, sa terrible façon de prononcer ?
Eh bien, où diable le mal, grommela Hareton, qui faisait moins d'embarras pour répondre à son compagnon de tous les jours.
Quel besoin avez-vous de faire intervenir le diable dans cette phrase ? Ricana Linton. Papa vous a dit d'éviter les mauvaises paroles, et vous ne pouvez pas ouvrir la bouche sans en lâcher une. Essayez donc un peu de vous conduire comme un gentleman.
Si tu n'étais pas une fille plutôt qu'un garçon, je te jetterais à terre à l'instant, misérable avorton, répliqua le jeune homme furieux, en retirant la figure brûlée de rage et de douleur. Il avait conscience d'être insulté et ne savait comment s'y répondre.
Monsieur Heathcliff, qui avait entendu comme moi cette conversation, sourit en voyant s'éloigner Hareton. Mais il eut ensuite dans son regard une répugnance singulière pour le couple bavard qui continuait à causer près de la porte. Linton exposait avec assez d'animation les fautes et les défauts de Hareton, racontant toutes sortes d'anecdotes à l'appui. Et la jeune fille s'amusait de ses railleuses et méprisantes paroles, sans prendre garde à la méchanceté d'âme qu'elle témoignait. Je commençais à détester Linton plus qu'à le plaindre, et à excuser son père en quelque façon du peu de cas qu'il faisait de lui. Nous restâmes ainsi jusqu'à l'après-midi, car il m'avait été impossible de faire partir plus tôt Miss Catherine. Mais par bonheur, mon maître n'avait pas quitté son appartement et ne savait rien de notre absence prolongée. Pendant que nous rentrions à la maison, j'aurais voulu expliquer à la jeune fille le caractère des gens que nous venions de quitter. Mais elle s'était fourrée dans la tête que j'avais des préventions contre eux. « Oh !» criait-elle, « vous prenez le parti de papa, Hélène. Vous êtes partiale. Sans cela, vous m'auriez pas entretenu tant d'années dans l'idée que Linton demeurait très loin d'ici. Je suis très fâchée, mais j'ai tant de plaisir que je ne puis le faire voir. Seulement, je veux que vous vous taisiez au sujet de mon oncle. Rappelez-vous qu'il est mon oncle et je vais gronder papa pour s'être querellée avec lui. » Je dus renoncer à essayer de la convaincre de son erreur. Ce soir-là, elle ne dit rien de sa visite parce qu'elle ne vit pas M. Linton. Mais le jour suivant, tout fut dévoilé, à mon grand chagrin, encore que dans ma tristesse, juste la joie de penser que M. Linton porterait mieux que moi le fardeau d'avoir à diriger et à prévenir sa fille. Mais il était trop timide pour lui fournir des raisons satisfaisantes dans la défense qui lui faisait d'entrer en relation avec Léo de Hurlevent, et Catherine ne se contentait pas à moins d'excellentes raisons. « Papa !» s'écria-t-elle dès le matin en l'embrassant. « Devinez qui j'ai vu hier dans ma promenade sur la lande. Ah, papa, vous avez tressailli, vous avez senti que vous aviez eu tort, n'est-ce pas ? Mais écoutez, j'ai vu. Mais écoutez, vous allez voir comment j'ai découvert la chose. Et Hélène, qui est liguée avec vous et qui me défendait toujours d'espérer le retour de Linton. » Elle raconta fidèlement l'excursion et ses conséquences. Et mon maître, tout en jetant de temps à autre vers moi un regard de reproche, n'ouvrit pas la bouche jusqu'à ce qu'elle eût fini son récit. Alors il la tira vers lui et lui demanda si elle savait pourquoi il lui avait caché le voisinage de Linton. Pouvait-elle penser que c'était pour la priver d'un plaisir inoffensif ? « Mais c'est parce que vous n'aimez pas M. Heathcliff, » répondit-elle. « Alors, vous croyez que j'ai plus de soucis de mes propres sentiments que des vôtres, Cathy ? Non, ce n'est pas parce que je déteste M. Heathcliff. C'est parce que M. Heathcliff me déteste et que c'est un homme diabolique, trouvant son plaisir à blesser et à ruiner ce qu'il déteste dès qu'il lui en fournisse la moindre occasion. Je savais que vous ne pouviez pas rester en relation avec votre cousin sans entrer en contact avec lui. Et comme je savais qu'il vous détesterait à cause de moi, j'ai pris mes précautions dans votre intérêt pour que vous ne puissiez pas revoir Linton. J'avais l'intention de vous expliquer cela un jour, quand vous seriez plus âgé, mais maintenant je regrette d'avoir tant tardé.
Mais monsieur Heathcliff a été tout à fait cordial, papa, fit observer Catherine, qui n'avait pas l'air convaincue. Lui n'a fait aucune objection à ce que nous nous voyions. Il m'a dit que je pourrais venir dans sa maison tant que je voudrais, seulement que je ne devais pas vous le dire, parce que vous vous étiez querellé avec lui et que vous ne pouviez pas lui pardonner son mariage avec ma tante Isabella. Et c'est vrai, c'est vous-même qu'il faut blâmer dans cette affaire. Lui, il consent à nous laisser enfin devenir amis, Linton et moi, et vous, vous le refusez.
Voyant qu'il n'y avait pas à espérer d'être cru sur parole, mon maître esquissa rapidement à sa fille la conduite d'Heathcliff à l'égard d'Isabella et la manière dont les Hauts de Hurlevent étaient devenus sa propriété. Il ne pouvait supporter de parler longtemps sur ce sujet, éprouvant toujours pour son ancien ennemi la même horreur et la même haine depuis la mort de Madame Linton. Il songeait surtout que, sans lui, sa femme vivrait encore. Et c'est ainsi qu'à ses yeux, Heathcliff paraissait comme un meurtrier. Miss Cathy, qui ne connaissait d'autres mauvaises actions que ses petites désobéissances, injustices ou colères, dont elle ne manquait jamais de se repentir le lendemain, fut atterrée de cette noirceur d'âme qui pouvait couver une vengeance pendant des années et poursuivre obstinément ses plans sans l'ombre d'un remords. Elle parut si profondément impressionnée et choquée de ce nouvel aspect de la nature humaine que M. Edgar jugea inutile de poursuivre ce sujet. Il se contenta d'ajouter qu'il lui expliquerait plus tard pourquoi il voulait qu'elle évitât la maison et la famille de cet homme, en lui disant de reprendre son ancienne vie, en attendant et de ne plus songer à son aventure de ce jour-là. Catherine embrassa son père et s'assit tranquillement pendant une heure ou deux, suivant l'habitude, pour travailler à ses leçons. Puis elle accompagna son père dans la visite qu'il fit à ses terres et toute la journée se passa comme d'habitude. Mais le soir, quand elle se fut retirée dans sa chambre et que j'allais l'aider à la déshabiller, je la trouvai agenouillée, pleurant au bord de son lit. « Oh, fille, le vilain enfant !» m'écriai-je. « S'il vous était jamais arrivé d'avoir un chagrin réel, vous auriez honte de perdre une seule larme pour cette petite contrariété. On voit bien que vous n'avez jamais eu l'ombre d'une vraie douleur. Supposez pour une minute que votre père et moi nous sommes morts et que vous êtes seul au monde. Qu'est-ce que vous éprouverez alors ? Comparez l'occasion présente avec une affliction comme celle-là, et soyez reconnaissante aux amis que vous avez, au lieu d'en souhaiter de nouveau. Mais c'est pas pour moi que je pleure, Hélène, c'est pour lui. Il s'attendait à me revoir demain, et il va être si désappointé. Il m'attendra et je ne viendrai pas. Oh, quelle folie! Croyez-vous qu'il pense autant à vous que vous pensez à lui? N'a-t-il pas l'accompagnant de Hareton? Personne au monde ne pleurerait de perdre une connaissance à peine entrevue deux fois. Linton devinera ce qui en est et ne se souciera pas davantage de vous. Mais ne puis-je pas lui écrire une note pour lui dire pourquoi je ne peux pas venir? Demanda-t-elle, se dressant debout. Je voudrais seulement lui envoyer ces livres que j'ai promis de lui prêter. Il a tant désiré les avoir. Non, en vérité, non, répondis-je d'un ton décidé. Il n'aurait qu'à vous répondre et cela n'aurait plus de fin. Non, Miss Catherine, il faut que vos relations cessent tout à fait. Papa le veut et je veillerai à ce qu'il en soit ainsi. »
Mais pourtant, une simple petite note, reprit la jeune fille d'un air suppliant.
Silence, l'interrompis-je, et allez au lit.
Elle me jeta un regard si maussade que je voulus d'abord ne pas l'embrasser comme je faisais tous les soirs. J'arrangeai son lit et refermai sa porte. Mais bientôt, j'eus un repentir et revins doucement sur mes pas. Voilà que je trouve la jeune fille debout à sa table, avec une feuille de papier blanc devant elle et un crayon à la main, sans qu'elle ait eu le temps de se cacher assez vite pour me cacher ce qu'elle faisait.
« Vous ne trouverez personne pour porter cela, Catherine, dis-je, si vous l'écrivez, et maintenant, je vais éteindre votre bougie. »
C'est ce que je fis, malgré une tape sur la main que me donna Catherine et un cri de « méchante créature » qu'elle m'octroya. Après quoi, je la quittai dans une de ses pires humeurs. La lettre fut terminée et portée à sa destination par un laitier qui venait du village. Mais je n'appris cela que longtemps après. Les semaines se passèrent et Cathy reprit son humeur habituelle. Elle aimait seulement désormais à se dérober dans les coins, et souvent, lorsque je m'approchais d'elle, tout d'un coup, pendant qu'elle lisait, elle tressaillait et fermait le livre pour m'empêcher de le voir. Et parfois je découvrais des coins de feuillets de papier sortant d'entre les pages. Elle imagina aussi de descendre de sa chambre très tôt le matin et de rôder autour de la cuisine, comme si elle attendait l'arrivée de quelque chose. Dans un cabinet de la bibliothèque, elle avait un petit tiroir où elle fourrageait pendant des heures et dont elle avait toujours soin d'emporter la clé avec elle. Un jour, pendant qu'elle examinait ce tiroir, j'observai moi-même que les jouets et les bibelots qu'il avait contenus en dernier lieu avaient été remplacés par des paquets de papier plié. Cette découverte excitant ma curiosité et mes soupçons, je décidai de connaître le mystérieux trésor de Catherine. Le soir, dès que la jeune fille et son père furent bien installés en haut, je cherchais et trouvais sans peine parmi les clés une clé qui alla à la serrure du tiroir. Je pris dans mon tablier tout ce qui s'y trouvait et l'emportai dans la chambre pour l'examiner à loisir. Quoique j'eusse pu soupçonner, je fus surprise de découvrir que ces papiers formaient une énorme correspondance, presque journalière évidemment, écrite par Linton Heathcliff en réponse à des lettres de Catherine. Les premières étaient embarrassées et courtes, mais par degrés, elles cédaient la place à de très abondantes lettres d'amour, folles, comme il convenait à l'âge de leur auteur, mais avec des touches, çà et là, qui me parurent empruntées. J'en gardai autant qu'il me parut nécessaire, les liai dans un mouchoir et les mis de côté, après quoi je refermai le tiroir vide. Le lendemain, suivant son habitude, ma jeune dame descendit de très bonne heure et vint à la cuisine. Je la vis s'avancer vers la porte lorsqu'arriva un certain petit garçon chargé d'emporter le lait, et je vis qu'elle mettait quelque chose dans la poche de sa jaquette et qu'elle en retirait quelque chose. Je fis le tour par le jardin et guettai le passage du messager. Celui-ci eut la fâcheuse idée de lutter pour défendre ce qu'il portait, de sorte que tout le lait se trouva répandu par terre. Mais je parvins à lui arracher la lettre, et après l'avoir menacé des plus sérieuses conséquences s'il persévérait, je restai sous le mur, à parcourir la composition amoureuse de Miss Cathy, qui me parut plus simple et plus éloquente que celle de son cousin. Je rentrai pensive à la maison. Comme la journée était humide et que la jeune fille ne pouvait s'amuser à errer dans le parc, sinon son travail fini, je la vis aller vers le tiroir. Son père était assis à la table avec un livre.
Moi, de mon côté, je m'étais mis à ranger les franges d'un rideau sans perdre des yeux la jeune fille. Jamais un oiseau trouvant vide à son retour le nid qu'il avait laissé plein de ses joyeux petits, jamais il n'exprima un désespoir plus complet par ses cris et ses battements d'ailes que Miss Cathy par son seul « Oh !» et le changement de ses traits. Monsieur Linton leva la tête. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Vous êtes-vous blessée ? » dit-il, lui donnant à entendre par le ton de sa voix que du moins ce n'était pas lui qui avait découvert la cachette.
« Non, papa, » murmura-t-elle. « Hélène, Hélène, venez avec moi dans ma chambre, je suis malade. »
J'obéis et la suivis.
« Oh, Hélène, c'est vous qui les avez prises ? » s'écria-t-elle aussitôt que nous fûmes seuls en se mettant à genoux. « Oh, rendez-les-moi, et jamais, jamais je ne recommencerai. Ne le dites pas à papa. Vous ne l'avez pas dit à papa, Hélène, n'est-ce pas? J'ai été très méchante, mais je ne le serai plus. »
Je restais grave et sévère, et lui ordonnais de se relever. « Ainsi, m'écriai-je, Miss Cathy, vous êtes allée assez loin, il me semble, et vous avez vraiment de quoi être honteuse. » « Ah ! Vous avez là de beaux morceaux à étudier pendant vos heures de loisir. Cela vaudrait la peine d'être imprimé. Et que pensez-vous? Que supposera votre père quand je lui montrerai ces lettres? Car vous n'imaginez pas que je garderai cachés vos ridicules secrets. Fi ! C'est évidemment vous qui avez commencé, car lui, j'en suis sûr, n'en aurait pas eu l'idée. »
« Non, non !» sanglota Catherine, dont le cœur se brisait. « Jamais je n'ai eu l'idée de l'aimer avant que... »« De l'aimer !» m'écriai-je, en mettant à ce mot tout le mépris que je pouvais. « De l'aimer !» N'a-t-on jamais entendu rien de pareil? C'est comme si je disais que j'aime le meunier qui vient une fois par an chercher le grain. Un bel amour, en vérité. Un garçon que vous avez vu deux fois et pas plus de 4 heures en tout. Voilà le paquet. Je vais aller le porter à votre père dans la bibliothèque et nous verrons ce qu'il pense de cet amour. »
Elle s'élança pour reprendre ses précieuses lettres, mais je les tins au-dessus de ma tête. Alors elle se mit à me supplier avec frénésie de les brûler, de faire tout plutôt que de les remontrer. Mais comme en effet j'étais aussi disposé à rire qu'à gronder, considérant tout cela comme de petites folies d'enfant, je finis par céder et lui dis « Si je consens à les brûler, me promettez-vous de ne plus jamais envoyer ni recevoir une lettre, ni un livre, ni des boucles de cheveux, ni des bagues, ni des jouets ?»
« Jamais nous ne nous envoyons de jouets !» cria Catherine, blessée dans sa fierté.
« Alors, ni quoi que ce soit, ma jeune dame, si vous ne voulez pas me le promettre, je descends chez votre père. »
« Je vous le promets, Hélène, » fit-elle en s'arrachant à ma robe.
« Oh, allez, jetez-les dans le feu, vite, vite !» Mais quand je m'approchais du feu pour leur préparer une place, le sacrifice lui parut trop cruel. Elle me conjura de lui en garder une ou deux. Je dénouai le mouchoir et jetai les lettres dans le feu.
« Je veux en avoir une, méchante sorcière » cria-t-elle, plongeant la main dans le feu pour en retirer quelques fragments à demi consumés.
« Très bien. » « Et moi, je veux en avoir aussi quelques-unes pour montrer à votre père, » répondis-je, reprenant ce qui restait des lettres et me dirigeant vers la porte. Alors elle rejeta au feu les feuilles noircies et me pressa de hâter le sacrifice. Quand ce fut fini, je secouai les cendres, les enterrai sous un seau de charbon et elle, sans rien dire, se retira dans sa chambre. Je descendis dire à mon maître que la crise de la jeune dame était presque passée, mais que je jugeais qu'il valait mieux pour elle rester quelque temps étendue. Elle refusa de dîner, mais elle descendit pour le thé, pâle et les yeux rouges, mais en somme paraissant tout à fait soumise. Le lendemain matin, je répondis à la lettre de Linton par une petite note où j'avais mis « Master Heathcliff est prié de ne plus envoyer de communication à Miss Linton, celle-ci étant dans l'impossibilité de les recevoir. » Et depuis lors, le petit garçon vint à la ferme, les poches vides.